Merci et très cordial bonjour à chacune et chacun. Étant donné que nous avons le petit livret, je ne vous ai pas proposé une nouvelle traduction. Nous partirons donc du texte que nous avons là. Mais vous avez repéré que ces sept célébrations, ces six célébrations, puisque la septième est tirée de la première aux Corinthiens, ne couvrent pas tous les chapitres de l'Exode. Il y a un choix qui a été fait. J'aime bien ce choix, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'entre donc avec vous dans ce choix. J'aimerais préciser de ce que Rolf vient de dire, spécialiste de la Bible, ça veut dire quoi? J'ai été formé par le père Barthélemy, Dominique Barthélemy, qui, dans le premier livre qu'il a publié, dit « Si ce livre est un livre d'amateur et que l'amateur vient du verbe aimer, alors oui, ce livre est un livre d'amateur. » Ce que je vous propose tout au long de cette journée, ce n'est pas d'entendre un spécialiste, que je ne suis pas, mais un amateur certainement. Et le sous-titre de l'année, Exode pas à pas, m'a parlé. D'une part parce que j'ai eu la chance, et vous allez vous en rendre compte par mes interventions, j'ai eu la chance de passer des mois et des mois et des mois à sillonner le Sinaï dans tous les sens. Il fut un temps où je disais que je connaissais mieux les pistes du Sinaï que les chemins de la Suisse. Et j'ai beaucoup appris. Et c'est intéressant de lire un texte avec la plante des pieds, de le transpirer, de le marcher, de le mâcher, de le ruminer, et aussi de le voir. Et je vais commencer un peu par là. C'est intéressant de se dire que... Il y a deux choses que j'ai découvertes dans le désert et que, comme Suisse, je ne savais pas il y a 50 ans. C'est que le désert, c'est plein de gens. C'est pas vide. C'est plein de gens. Ils ont une particularité. En français, on dirait que ce sont des nomades, c'est-à-dire c'est des transhumants. Ah, ça, les Suisses connaissent, hein, la transhumance. Et donc, à l'intérieur de la sphère géographique qu'on appelle Sinaï et que je délimiterai d'un côté par le canal de Suez, de l'autre côté par les premières collines de Judée à l'est, dans cette sphère, il y a des clans différents. Oui, mais en Suisse, on connaît, hein. Il y a des cantons différents, il y a des langues différentes, il y a des religions différentes, il y a des prononciations différentes. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que, par exemple, pour un Japonais ou un Chinois qui apprendrait le français, c'est très compliqué de se dire que vous venez de Genève à Lausanne en auto et que vous repartez de Lausanne vers Genève en auto? C'est peut-être les mêmes consonnes, c'est en tout cas pas les mêmes voyelles. Et nous voilà en plein dans la première difficulté de tous ces textes bibliques, mais en particulier du texte de l'Exode, puisque écrit en hébreu et écrit des siècles après l'événement. Il n'y avait aucun journaliste, aucune caméra qui a suivi Moïse et les fils d'Israël à travers le désert. C'est beaucoup plus tard. Mais ce n'est pas comme cela que j'ai appris à lire la Bible. Alors peut-être, pour mettre tout le monde à l'aise et qu'il n'y ait personne parmi vous qui trouve que sa lecture est peut-être surannée, je fais référence d'abord à un premier livre de Werner Keller, publié en français en 1955, en 1951 en allemand, et le texte français, le titre français, a corrigé le travail de Werner Keller, parce qu'entre 1951 et 1955, la traduction, il y a eu bien des réactions, et pas toujours positives, pour le travail de Keller. En allemand, son livre s'appelait « Und die Bibel hat doch recht », traduit en français « Et la Bible a raison ». Et il en était convaincu, et moi aussi, comme gamin. Comment est-ce que j'aurais pu douter que ce que la Bible dit, c'est pas vrai ? Non, attendez, c'est vrai de toute façon. Voilà, je pose la première question. Et lorsqu'on entre dans un texte, pour nous aujourd'hui, dans le texte de l'Exode, il faudra toujours se poser la question, est-ce que le mot que j'ai sous les yeux, et nous allons surtout travailler sur le français, hein, même si de temps en temps je ferai défaut d'archéologue, un petit détour par l'hébreu, est-ce que le mot que nous avons est juste ? Par exemple, exode, c'est pas un mot hébreu, c'est un mot grec, et ça veut dire sortir, mais ça on connaît en hébreu. Et il y a très souvent le verbe « sortir ». Est-ce que ça vous va si je propose plutôt le mot « déplacement » Comme vous, comme moi, ce matin, nous avons quitté une situation que nous connaissons bien, enfin j'espère que vous avez dormi chez vous, et pour passer à une situation que nous ne connaissons pas, même si peut-être, et merci à Vincent de nous accueillir à la paroisse du Sacré-Cœur, même si nous connaissions à peu près l'endroit, mais nous ne connaissons pas ce que nous allons y vivre. Et je ne connais pas ce que nous allons y vivre. C'est un a priori de départ. Autrement dit, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que chacune, chacun m'interpelle ou essaye de réagir, peut-être en disant « ça, ce mot, je ne comprends pas ». Donc nous allons faire un peu d'archéologie, on ne se refait pas, hein, quand on est archéologue, on l'est toute sa vie, un peu d'archéologie du texte, mais aussi de l'archéologie de nos sentiments religieux, de notre spiritualité, parce que ça nous a marqué, l'Exode. Je suis persuadé que c'est un des passages les plus connus de la Bible, même de gens qui n'ont jamais lu la Bible. Je crois que mes parents employaient le mot « Moïse » pour dire l'espèce de machin à quatre roues dans lequel il me baladait sur le quai d'Ouchy. Et il est évident qu'il ne parlait pas de l'Exode. Par la suite, c'est devenu un visa, quelque chose, etc. Et puis la marque s'est imposée. Donc, je veux dire par là que nous entrons dans quelque chose que nous connaissons, mais pas toujours de façon très précise. Alors, je me suis permis de vous passer une feuille que j'ai glissée dans le petit livret. À la fin de la journée, nous nous serons arrêtés en tout cas autour de ces quatre ou cinq mots. Le premier que je ne prononcerai pas, mais c'est embêtant, c'est le mot le plus important du livre et c'est celui qu'il ne faut pas prononcer. Vous voyez déjà notre difficulté. Et pourquoi il ne faut pas le prononcer, nous y viendrons. Et puis le deuxième, c'est Moïse. Moïse, c'est la façon dont nous le prononçons en français. Pour une fois, je serais plutôt d'accord avec la prononciation allemande. Moses ou anglaise. Moshe. En tout cas, après ma petite démonstration que les Genevois vont à la colo et les Vaudois vont à la colo, oublions momentanément la musique et ne gardons que les consonnes. Ce, ce. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, comme moi, d'aller à Paris voir cette excellente exposition sur Ramsès, et vous aurez vu que Ramsès, c'est compliqué quand il faut l'écrire, parce qu'on n'a pas encore une écriture alphabétique, mais une écriture qui ressemble beaucoup au rébus. Ce sont des idéogrammes. Oh, c'est un mot savant, hein. S'il vous plaît, chaque fois que j'emploie un mot que vous ne comprenez pas, veuillez lever la main, hein, parce qu'on a chacun son jargon. Donc, je parle d'idéogramme, c'est-à-dire on prend une idée et on l'écrit. Et nous avons un idéogramme en français qui est en réalité une copie de l'idéogramme pharaonique. Quelle est la lettre de l'alphabet français qui est un idéogramme hiéroglyphique ou pharaonique? Si je fais comme ça, vous comprenez quoi? Que c'est un M et que ce sont des vagues et que ça représente Mai qui veut dire l'eau. Donc nous avons depuis les hiéroglyphes pharaoniques une tradition qui nous montre qu'il y a un M. Et vous avez ce M dans l'écriture pharaonique, dans des titres de Ramsès. Attendez, j'aimerais aller un peu plus lentement. Nous parlons d'un pharaon qui s'appelle Ramsès. Ramsès. Mettez de nouveau de la musique et ça vous donne Moshe. Moses, Moïse, et nous retrouvons ça dans toute une série de noms de pharaons, Toutpsès, Ahpsès, Toutmosis, Ramsès. Donc c'est très connu. Donc il suffit de couper le mot en deux, un mot que j'appellerais Théophore, il manifeste une des représentations de Dieu, comme par exemple Ra. Ah oui, ça c'est embêtant parce que s'il y a des italophones parmi nous, ils ne prononcent pas le R comme les francophones. C'est une des difficultés des francophones quand ils apprennent l'italien. Donc c'est Ra. Ra, c'est très guttural, vous allez le chercher au fond de la gorge, vous pesez avec votre... Non, faites pas ça face à votre voisin, et ça vous donne... ça fait penser, par exemple, à la margelle d'un puits. Ça fait penser aussi à l'utérus de la femme. Autrement dit, c'est non pas l'emballage, mais le contenu qui nous intéresse. Et le contenu, c'est de l'eau, ou c'est la vie. Et pour bien signifier que ce n'est pas l'emballage qui est important, on dit « mses ». Sur la feuille que je vous ai passée, j'ai essayé de dessiner, mais c'est mal dessiné. Vous avez un lotus et un papyrus. Et le lotus, c'est bien connu dans le delta du Nil. Il y a plein de lotus. On appelle ça aussi des joncs, parce que les botanistes aiment distinguer les choses. Et puis il y a un papyrus. Et il y a un point commun entre le lotus et le papyrus, c'est que ça sort de l'eau. Autrement dit, l'Égyptien qui visualise, qui dessine les réalités et qui est incapable de donner une abstraction, ce en quoi les langues sémitiques vont le suivre, l'hébreu en particulier, qui est incapable de donner une abstraction. Par exemple, l'hébreu ne saura pas vous dire l'esclavage, mais la maison des esclaves. Ah oui, ça, ça va. Le royaume, ça, c'est une invention grecque. Le règne, ça, ça peut déjà, mais dans le pharaonique très récent, Amenhotep, par exemple, qui fait une liste des pharaons, on a la notion progressive de règne. Mais vous voyez, l'abstraction, il faut oublier lorsque vous passez dans une langue sémitique. Et pourtant, nous en avons tout le temps besoin. Je reviens donc à ce. C'est intéressant qu'on a trouvé des tas de similitudes, grâce à Champollion, entre tous ces noms qui portaient l'image d'un dieu et qui étaient sortis de, pas forcément de l'eau, mais qui étaient sortis de, et par conséquent qui étaient nés de. Ramsès, c'est né de Ra. Et le nôtre, eh bien, on lui a coupé sa référence. Peut-être pour nous permettre, chers amis, de rajouter, nous, sa référence. Jamais personne dans l'histoire égyptienne s'est appelé Mesès. Mais quelque chose, Mesès. Il est donc né de. Lorsque, par la suite, le peuple de la Bible, nous y viendrons, va s'amuser à donner une réalité, un corps à cette Mesos, eh bien, ils vont l'expliquer en disant c'était l'histoire de. Alors, un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se leva sur l'Égypte. Chapitre 1. Vous ne pouvez pas écrire ça à l'époque où ça s'est passé. Vous ne pouvez l'écrire qu'après coup. Et on va lui donner un nom à celui qui va devenir le personnage principal. Et on va lui donner un nom, mais regardez bien dans le texte de l'Exode au chapitre 2, ce n'est pas sa maman qui va lui donner un nom. Et ça, chers amis, c'est très embêtant pour les Juifs. Parce que les Juifs vous diront qu'on est juif parce qu'on a eu une maman juive. Et pourquoi pas un papa ? Oh, les rabbins sont malins. Je ne vise personne et que personne ne se sente visé, mais les rabbins vous diront parce qu'on est sûr de la maman. Ça ne manque pas d'humour. Autrement dit, lorsqu'on va s'approprier cette histoire, ce n'est pas la maman qui est israélite ou hébreu, mais c'est celle qui va recueillir celui, ce qui est sorti de l'eau. Alors, c'est encore trop compliqué, on va se dépêcher de dire qu'il est sorti d'une petite corbeille. C'est joli, Teba. En hébreu. Non, c'est pas important que vous reteniez le mot. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a que deux endroits dans toute la Bible où il est question d'une corbeille. C'est dans notre texte et c'est dans le texte de la Genèse. Essayez de vous souvenir, nous y reviendrons. Autrement dit, on emprunte des images à quelque chose de connu, et lorsqu'on passera à l'écrit, il faudra préciser que C'est pas inconnu, c'est nouveau, mais c'est pas inconnu. Et donc il y avait déjà cette image qui a été employée précédemment. Je vous propose le premier exercice, la première célébration. J'ai bien aimé cette façon de dire le texte. Je le prends donc à la page. Pardon. Pages 8 et 9. Je lis une première fois le texte. Je ne sais pas si vous aimez gribouiller dans vos choses. Moi, j'aime beaucoup gribouiller. Vous devriez voir ma Bible. Elle est gribouillée avec tous les stabilos qui existent, etc. Mais sinon, ben, notez-le sur un papier à côté. Si pendant ma lecture, que je vais simplement vous proposer pour que vous suiviez en même temps, si pendant ma lecture, il y a un mot, il y a une expression qui vous frappe ou qui fait problème, soulignez-le ou notez-le. Moïse répondit à Dieu. Je m'arrête pour vous expliquer ce que je vous propose de faire. Je lis la traduction de la Tob que vous avez dans vos livrets. En réalité, si je lisais le texte en hébreu, ce serait Elohim. Elohim, ça vous dit peut-être quelque chose. Enfin, pour faire court, le S du pluriel de la plupart des mots en français se dit pour la plupart des pluriels en hébreu IM. Par exemple, lorsque vous lisez Yerushalayim ou Jérusalem, vous devez immédiatement vous dire « Ah, il y en a deux !» Sinon, ce ne serait pas un pluriel. Donc, il doit y avoir deux Jérusalem. Choisissez. Les rabbins ont choisi. Il y a la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut, ça fait deux. Elohim, supprimez la terminaison et vous retrouvez quelque chose que l'on connaît bien. El. L'archéologue du Proche-Orient trouve cette expression massivement un peu partout. Qu'elle soit dite El, que vous l'ayez en arabe Allah, il n'y a que le halo américain qui ne correspond pas tout à fait à elle, ou à moins que celui qui a inventé le téléphone aux États-Unis ait voulu célébrer Dieu chaque fois qu'il prend l'appareil. Ce serait pas mal. Essayez de le faire. Chaque fois que vous dites allô au téléphone, vous pensez que c'est elle qui communique. Je ferme la parenthèse. Donc, on s'arrête par Dieu, mais Dieu, c'est le Dieu de qui ? Des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des arméniens, des... Non, non, c'est... Est-ce qu'il faut le mettre avec un D majuscule, un D minuscule ? Est-ce que je vais le mettre au singulier ? Étant donné qu'en hébreu c'est Elohim, je devrais le mettre au pluriel. Ça fera donc Dieux parle, parle. Vous écrivez comment? Et c'est là que la Bible commence à devenir très intéressante. Parce qu'avec un pluriel, Elohim, la Bible emploie tous les verbes qui suivent au singulier. Donc, Dieu a dit, et non pas les dieux ont dit. Et n'importe qui, un petit enfant qui va au catéchisme chez son rabbin, va lui dire, rabbin, c'est pas juste. Il faudrait dire, Dieu ont dit. Et le rabbin répondra quoi ? Mais Dieu, un, non pas l'unique. Laissez ça à l'aéroport de Zurich qui pense qu'il est l'unique. Non, non, non pas l'unique, mais un. Tous les dieux, c'est Dieu. Quelle formidable affirmation théologique. Ça nous prendrait le restant de l'après-midi si on voulait développer simplement ce mot, Elohim. Il n'y a personne au monde qui peut dire qu'il n'est pas compris dans sa relation lorsque je dis Elohim. Même les sans Dieu, les athées, pour critiquer le grec ou faire une comparaison avec le grec, on a cette même affirmation. Donc tout le monde est concerné. Et ici, il s'agit d'une réponse. Nous sommes au verset 11 du chapitre 3. Donc il y a des choses qui se sont passées avant. On ne va pas les retenir pour notre exercice de ce matin. Mais on va dire, celui qui est sorti de... Après tout, chers amis, vous pourriez essayer de faire la même chose avec votre prénom. Ça serait pour moi Jean-Bernard Mseus. Non, parce que je ne suis pas né de moi. Et alors, vous mettriez quoi devant? Peut-être que vous mettriez Dieu Mseus. Et du coup, on aurait le même prénom chacun. Ça serait pas mal, hein, si on se rappelait que nous sommes tous nés d'eux, à moins que vous préfériez dire que vous êtes nés de votre maman. Mais on ne va pas rentrer en débat, parce que là-dessus, entre juifs et musulmans, ils ne sont pas d'accord. Car un père musulman qui a un fils va perdre son prénom et va prendre le prénom du fils. Il devient... le père de. Et les juifs leur répondent, non, il est né de sa maman. Vous ne trouvez pas que c'est compliqué de mettre ensemble sur une même terre au Proche-Orient des juifs et des musulmans? Et je vous assure que quand on est chrétien entre les deux, c'est pas simple. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Et alors, le texte continue. Moïse dit à Dieu, ou répondit à Dieu, « Qui suis-je pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte ?» Elohim répondit, « C'est que je serai avec toi. Et ceci te servira à prouver que c'est moi qui t'envoie. » Attendez, je traduis littéralement l'hébreu, mais je vais lire votre texte et nous allons partir de ce texte. « Je serai avec toi, dit Dieu, et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne un signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte. Sur cette montagne. Bien, dit Moïse. Je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je? Dieu déclara à Moïse, je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les êtres humains de tous les temps pourront m'invoquer. Et maintenant, va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'est apparu. Et il m'a dit qu'il s'est penché sur votre situation en Égypte et qu'il sait bien comment on vous y traite. Il a décidé de vous arracher à ce pays où l'on vous maltraite pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hivites, des Jébusites, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Les Israélites t'écouteront. Tu iras avec leurs anciens trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, j'y reviens, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, notre Dieu, s'est manifesté à nous. Permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices. Tu sais bien que le roi ne vous laissera pas partir, à moins d'y être forcé par une main puissante. C'est pourquoi j'interviendrai avec puissance contre son pays par toutes sortes d'actions extraordinaires. Après quoi, il vous laissera partir. En cours de route, quand on lit ça comme ça, ça va très bien. En réalité, je pose une question. Attention, je pense qu'il y a des responsables de la mise par écrit de ce texte, donc je ne vise vraiment personne et je ne voudrais critiquer absolument personne. Mais je prends par exemple le verset 15. Graphiquement, le Dieu de vos ancêtres, à la ligne, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Très bien. Et si vous prenez le verset suivant, vous avez le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'est apparu. Si je lis un texte que je ne connais pas, je comprends que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de vos ancêtres. Mais ce n'est pas ce qui m'est proposé au verset 15 de par la typographie même. Et c'est l'option que je fais quant à moi. C'est-à-dire, nous y revenons, celui qu'il faudra bien nommer, même si on ne prononce pas son nom, dit à Moïse, le Dieu de vos ancêtres. C'est qui mes ancêtres? C'est qui vos ancêtres? Et vous voyez que nous avons tendance, parce que nous lisons les choses très rapidement, nous avons tendance à croire que nos ancêtres, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Vous permettez, mon père s'appelait ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Et le vôtre? Donc il est éliminé des ancêtres ou justement il est dans vos ancêtres? Et votre grand-père s'appelait Abraham, Isaac, Jacob? Et votre arrière-grand-père? Et peut-être que... Bon, d'accord, c'est mon défaut d'archéologue. Je suis passionné par les généalogies, entre parenthèses, de ma famille, eh bien, il faut que je remonte au XVIIe siècle pour trouver un ancêtre qui s'appelait Abraham. C'est sûr, c'est pas celui-là. Et comment je le connais, Abraham? Comment je le connais, Isaac? Comment je le connais, Jacob? Oh, ça, c'est une autre histoire. Mais l'auteur de ce texte de l'Exode, il en a entendu parler. Vous me direz, oui, c'est dans le livre de la Genèse. Manque de peau, le livre de la Genèse n'est pas encore écrit au moment où l'Exode est écrit. Et c'est là que je mets en opposition ce qui m'a été dit en 1955 et ce que l'archéologie aujourd'hui nous dévoile. Et nous avons la chance d'avoir comme responsable non pas ni Finkelstein ni Silbermann, mais Thomas Römer, qui était à Lausanne, qui s'est déplacé de Lausanne vers Paris pour être aujourd'hui membre de l'Institut, et qui est un des premiers à dire « mais ça colle pas ces textes ». Mais moi j'avais appris, et Thomas Römer aussi, même s'il est nettement plus jeune que moi, il avait appris que oui, il y a des textes qui sont de tradition yaviste, où ça veut dire que quand on parle de Dieu, on dit Yahvé. Et puis il y a des textes qui sont de tradition éloïste, ça veut dire que quand on parle de Dieu, on dit Elohim. Attendez, mais c'est le même ou c'est pas le même? Je viens de vous dire que dans Elohim, il y a tous les dieux. Donc si Yahvé, c'est pas le mien, en tout cas, je peux me retrouver dans un de ceux du pluriel de Elohim. Et puis, il y avait encore une... Non. Aujourd'hui, chers amis, la tradition qu'on appelle documentaire a pris un sacré coup de vieux. Mais je ne veux pas entrer en débat. Je veux simplement nous permettre de lire le texte. Et le texte a dû choisir. La Tob a dû choisir. Et pour pouvoir traduire les quatre lettres que vous avez comme première proposition d'un terme incontournable, Yud, He, Vav, He, Y, H, W, H, si je transcris dans la, en écriture latine, ça vous donne quelque chose, Dieu merci, de tout à fait imprononçable. Essayez de prononcer. Yud, He, Vav, He, Y, H, W, H. Nos chers pères dominicains de l'école biblique de Jérusalem, dont je fus un élève avant de devenir un enseignant, ont proposé la graphie Yahvé. Aujourd'hui, ils sont morts les doigts, hein, mais au moins ça leur a permis de publier la Bible de Jérusalem. Quelques années après, on a publié la Tob, et là, il y avait suffisamment d'opposants qui disaient « mais la vocalisation Yahvé, ça ne tient pas ». Alors faisons comme les Juifs. Chaque fois que nous voyons YHWH ou Yud He Vav He, prononçons le Seigneur. On ne va pas dire le roi, il y a des rois. Enfin, les Suisses n'en connaissent pas, mais les Français, oui. Du reste, ils en ont toujours encore un. C'est un autre problème. Et nous avons donc à donner un titre que nous devons réserver. Mais ce n'est pas vrai qu'on le réserve qu'à Yud He Vav He, puisque, mesdames, vous aussi vous dites « mon Seigneur » ou « Monsieur ». Donc il faudrait, quand on lit les quatre lettres, que l'on pense que ce titre ne peut lui être attribué qu'à lui qui nous a donné son nom. Et qu'est-ce qu'il nous a donné comme nom? Vous avez le verset 14. Certainement le texte qui a fait, le verset qui a fait le plus de commentaires dans l'histoire de l'humanité, et c'est de loin pas fini. Alors, quelle que soit la traduction que vous avez dans vos Bibles, « Je suis celui qui suis »,« Je suis celui qui serai »,« Je serai celui qui sera », etc., il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le verbe « être » n'existe pas en hébreu. Donc, toutes les traductions qui emploieront le verbe « être » sont incomplètes. Je ne dis pas fausses, mais incomplète. Si nous devons décrire qui nous, ça ne va pas, le verbe être n'existe pas, donc je dirais nous assis. Et c'est valable dans toutes les langues sémitiques encore aujourd'hui. Et en hébreu moderne et en arabe, le verbe être n'existe pas. Alors d'où ça vient ça? Eh bien de la traduction en grec, qu'on appelle la traduction des Septante, et qu'il fallait à un moment donné authentifier Je résume rapidement. Je suis très conscient que je vous dis des choses que vous connaissez déjà, hein, mais je les mets simplement dans un certain ordre. À Alexandrie, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a une importante communauté juive. Elle parle grec, mais elle lit l'hébreu de la Bible, elle prie les psaumes en hébreu, et dans la synagogue, elle lit le texte de la Torah. Et de plus en plus, il y a des gens intéressés par ce que disent la communauté et les juifs de cette communauté juive, et ils aimeraient pouvoir comprendre. Pour cela, il faudrait une traduction. Alors, bien sûr, il y a une traduction. Mais comment savoir si Dieu est d'accord, puisque c'est Dieu qui nous a donné le texte de la Torah? Est-ce que Dieu nous a en même temps donné le texte en grec? Notez qu'il aurait mieux fait de nous donner la capacité de parler l'hébreu plutôt que de traduire dans toutes les langues. Mais s'il ne traduit pas sa parole dans toutes les langues, il en exclut donc de la surface de la terre qui pourrait dire « Je ne peux pas écouter la parole de Dieu puisqu'elle n'est pas dans ma langue. » D'où l'importance, et vous le savez, de continuellement transcrire la parole de Dieu dans la langue avec laquelle vous allez faire vos achats à la COP ou à la micro. Ce qui n'est pas toujours le cas de nos traductions, mais ne vous affolez pas, au fur et à mesure, les maisons d'édition vont refaire une nouvelle traduction de Jérusalem, une nouvelle traduction de la Tob, une nouvelle traduction tout court, une nouvelle traduction de second, etc. Donc, ce qui manque dans notre façon de lire Yud He Vav He, ce n'est pas de l'appeler le Seigneur, ou par exemple les Juifs disent aussi volontiers Hashem, le nom, Elohim, ou bien ils inventent quelque chose avec des vocalisations Adonai. Et c'est ce qui a permis à la Tob de proposer, par exemple, le Seigneur. Mais il manque quelque chose. Parce que le Seigneur est avec. Ne traduisez jamais Yud He Vav He sans mettre avec. Car ce n'est pas le Dieu ontologique des Grecs qui va rencontrer Moïse. Et il le dit, verset 12, « Je serai avec toi. » Et il le dit plus loin dans le même chapitre, « Je serai avec toi, a dit à Moïse. » Vous voyez ce qu'on loupe, chers amis, depuis notre tendre enfance, si on nous avait dit ce que la tradition latine liturgique a gardé, et qu'on essaye de transcrire dans nos liturgies, aujourd'hui encore, le Seigneur est avec vous. Le voilà le Seigneur spécifique de tous les membres de la corporation des Elohim. Il y en a un qui se distingue en disant « Je suis avec toi ». Souligné deux fois, trois fois. Et vous serez frappé comme moi, une fois qu'on a pris conscience que chaque fois qu'il y a Yud He Vav He, c'est celui qui est avec, vous serez frappé du nombre de fois où ça se vérifie. Et quand ça ne se vérifie pas, nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en parler, quand ça ne se vérifie pas, eh bien, il n'y a qu'à râler. Non, la Bible dit murmurer. Où est-ce qu'on a été chercher un peuple qui n'a qu'une envie, c'est de râler, parce qu'il voit bien que celui qui est avec n'est plus avec, et on n'a pas osé dire qu'il râlait. Bon, sans si c'était des Genevois, je vous assure qu'il râlerait, hein. Ben non, il murmure, mais ça murmure sec. Alors, pour cette première célébration, je garderai YHWH. Et je garderai cela dans toutes les autres lectures. Il est celui qui est avec. Voilà l'autorité que Moïse va avoir lorsqu'il se présente devant Pharaon. Mais pour cela, il a fallu cet acte extraordinaire pour lequel il n'aurait fait que ça. Je remercie encore aujourd'hui le Seigneur de nous avoir donné Moïse. Après ce qu'il a vu, c'est-à-dire un buisson en feu qui ne se... En français, je ne sais jamais s'il faut dire consumer ou consommer, parce que l'hébreu dit consommer, mais les Français correspondent, enfin, ne se voient pas le... Regardez, je ne vais pas faire ça ici, parce que sinon il y a Vincent qui va me dire que je détériore le matériel de la paroisse. Essayons de brûler une feuille, surtout de papier, par exemple, du papier de soie, et vous verrez que ça se mange. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait X fois dans le désert. Lorsqu'en fin de journée, on veut manger quelque chose, alors on va chercher des broussailles, on met le feu à ces broussailles, et le feu mange les broussailles. OK. Moïse voit quelque chose, et il entend la voix lui dire « Moïse, Moïse !» Alors il se retourne, il n'y a personne d'autre, donc ça doit être lui. Et il dit oui, et il reçoit une mission. Et c'est là qu'il est grand, Moïse. C'est qu'il ne se laisse pas avoir. Ce n'est pas parce que c'est une voix du milieu d'un buisson que vous devez suivre. Hein. D'où l'expression « tu es qui, toi ?» Je vais y revenir. Je crois, chers amis, que c'est très important que dans notre prière, dans le face-à-face, j'y reviendrai aussi, dans l'intimité avec celui que nous nommons YHWH, nous lui posions la question, tu es qui toi? Tu es qui toi pour moi aujourd'hui? Et il me répond, parce qu'il répond toujours de la même façon, « Je suis celui qui est avec toi. » Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Il y a un mot que je n'ai pas relevé, mais j'y passe rapidement pour ne pas faire trop vite de la politique actuelle. C'est « Et j'ai résolu de vous faire monter de l'esclavage, donc de la maison des esclaves d'Égypte, vers la terre. » Le mot ici devient technique. Il y a un mot que l'hébreu connaît bien, Adama, dont le substantif est devenu Adam. Mesdames, c'est aussi vous, hein, Adam. C'est le ou la terreuse. C'est pas l'homme par rapport à la femme. C'est le terreux. Duquel sera tiré Ish et Isha, l'homme et celle par qui la vie nous est donnée. Mais ce n'est pas ce mot-là qui est employé dans la première célébration, au verset 17, et c'est le mot Eretz. Et donc l'hébreu, à partir de ce moment-là, va distinguer deux choses. Eretz, c'est une dénomination géographique. Adama ou Adam, c'est une dénomination ethnique. Là où il y a des Adama, la terre devient civilisée. Mais elle n'est pas forcément civilisée. Par exemple, vous venez de voir un bout de caillou que je ne sais pas quelle fusée a ramené de la Lune. Eh bien, ça veut dire que quand nous disons « lune », c'est un « eretz ». mais elle n'est pas peuplée pour autant. Il faudra qu'elle soit peuplée pour que ça devienne une Adama, une terre.